أنا كبشتة.
Rencontre littéraire, Václav Richter.
Récemment, Prague a applaudi le contre-ténor français Philippe Jaroussky. À cette occasion, le jeune et déjà célèbre chanteur a accordé un entretien à Radio Prague. Comme nous n'avons pas encore diffusé cette interview dans son intégralité, je me permets aujourd'hui de dépasser un peu les limites de cette rubrique littéraire et vous propose de l'écouter aujourd'hui. Bien sûr, il sera question avant tout du chant et de la musique, mais aussi de l'opéra, donc du théâtre mis en musique. Et comme les pièces de théâtre et les livrets d'opéra sont également des genres littéraires, la littérature sera donc présente aussi dans notre rencontre avec cet artiste étonnant qu'est Philippe Jaroussky.
Est-ce que vous aimez chanter à l'opéra? Est-ce qu'il y a en vous aussi une espèce de comédien?
Oui, mais un comédien qui a eu du mal au début à se sentir bien sur scène, parce que j'en avais effectivement pas d'expérience. Pour moi, le monde de l'opéra est un monde qui parfois fait un peu peur, dans le sens où il y a énormément de contraintes à l'opéra. Souvent, on accepte de faire un opéra sans connaître le metteur en scène, et que finalement, c'est un monde où on a l'impression, en tout cas au début, d'avoir beaucoup moins de liberté. Hein, on doit entrer dans un personnage, le metteur en scène nous donne des indications, le chef d'orchestre, on répète pour les lumières, les décors, les costumes. C'est une vraie société à part entière et on est juste un maillon de ça. Donc des fois, j'ai un peu de mal avec ça, mais par contre, les premières répétitions sont toujours une violence pour moi, très forte. Par contre, c'est vrai que quand arrive la fin des répétitions, la générale de l'opéra, je commence vraiment à sentir à quel point l'opéra apporte énormément de choses à un chanteur. On travaille pendant 2 mois la même œuvre, donc on est complètement imprégné. Et du coup, quand on arrive sur scène, on a une expérience telle qui fait qu'on arrive à se surprendre soi-même.
Est-ce qu'il y a encore d'autres musiciens tchèques baroques qui vous attirent?
Alors oui, je le connais pas très bien pour tout avouer, Slivíček, je pense qu'il est tchèque, mais je ne connais pas trop sa carrière, je ne sais pas s'il a beaucoup travaillé à Prague ou aussi.
Très peu, parce qu'il s'est exilé dans sa jeunesse encore, il a travaillé surtout en Italie, à Naples.
Voilà, il a surtout travaillé en Italie, mais on y retrouve aussi des particularités intéressantes, mais ses opéras ont l'air formidables et aussi complètement oubliés, il faut le dire.
Vous vous trouvez à un moment de votre carrière où vous cherchez à élargir votre répertoire, vers quels horizons aimeriez-vous aller maintenant?
Alors voilà, je viens tout juste de finir un enregistrement de Mélodie Française. Alors ça va surprendre beaucoup de gens, je pense, parce qu'effectivement les gens vont dire Debussy, Fauré, Chausson, Massenet, Saint-Saëns n'ont pas écrit pour contre-ténor. Mais je pense que, à l'instar du lead, la Mélodie Française, c'est pas un monde d'acrobatie vocale, c'est quelqu'un qui dit un poème en musique. Et je pense que si je me considère comme chanteur et non pas seulement comme contre-ténor, je pense avoir le droit de le faire. Et je voulais défendre aussi ce répertoire qui, malgré tout, a la particularité, comme le baroque, d'être immense, avec plein d'œuvres inconnues. Donc j'ai un peu fait la démarche baroque dans ce répertoire-là. Et aussi que c'est un monde très intime. J'aime beaucoup le rapport piano-voix. Et donc ça, j'ai beaucoup de concerts prévus l'année prochaine sur ça, donc complètement différent. Des créations contemporaines, un opéra baroque autour du Caravage, composé par Suzanne Giraud. J'ai créé récemment un cycle de mélodies de Marc-André d'Albavy. Et également, j'ai l'intention aussi peut-être de m'intéresser justement un peu plus à l'époque, on va dire, un peu oubliée entre la musique baroque et Mozart, où il y a énormément de compositeurs qu'on va dire galants ou d'opéra seria, Traetta, Jomelli, Johann Christian Bach. Et donc j'ai un projet très important en ce qui me concerne, de faire un disque consacré à l'opéra seria de Johann Christian Bach, qui a composé sur tous les grands livrets de Metastase, Artaserse, Alessandro Nell'Indie, Catone in Utica. Très très belles choses. Et c'est vraiment des compositeurs qui ont été importants dans l'histoire de la musique, Paisiello, et tous ces compositeurs-là, effectivement, sont pas extrêmement joués parce qu'on a peur du côté un peu galant de la musique, mais il y a des choses extrêmement fortes. Je pense à cette capacité qu'ils ont à faire des grands récits accompagnés, des grandes scènes dramatiques. J'ai redécouvert, on va dire, cette période avec le magnifique disque qu'avait consacré Cecilia Bartoli au jeune Gluck, qui montre à quel point Gluck n'a pas attendu d'être génial. Il était génial avant Orfeo, quoi. Je veux dire, il y a vraiment tout un pan de son œuvre qui avait été oublié. Et on se rend compte que cette musique a une fraîcheur d'inspiration et une force extrêmement particulière, et une orchestration également qui va souvent plus loin que la musique baroque et qui amène justement Mozart.
Parmi tous ces noms, il y a un que vous avez oublié, c'est le nom de Reinaldo Hahn. Pourquoi justement ce compositeur qui était aussi un peu oublié, n'est-ce pas, et qui était ami de Marcel Proust, si je me rappelle bien, quelles sont les qualités de cette musique?
C'est vrai que j'ai oublié Reinaldo Hahn, ou qui sera beaucoup dans le disque d'ailleurs. Pourquoi Reinaldo Hahn? Pour moi, Reinaldo Hahn, c'est un peu le Vivaldi de la mélodie française. C'est-à-dire qu'avec quelques notes, vraiment 2-3 notes égrenées au piano, quelques notes à la voix, il y a un charme qui, je sais, moi, prend le public. Par exemple, quand je fais le récital de mélodie française, moi, je suis extrêmement fan d'Ernest Chausson, par exemple, ou de Gabriel Fauré, mais je sens bien que le public est complètement charmé par des mélodies comme À Chloris ou L'heure exquise de Reinaldo Hahn, et c'est sa capacité, justement, d'un rien à créer un monde extrêmement simple, extrêmement évident, et donc aussi j'ai eu l'impression très vite que Reinaldo Hahn correspondait par exemple plus à ma voix que d'autres compositeurs comme Poulenc ou Duparc, que j'ai refusé de faire parce que je sentais que ça correspondait pas. C'est un compositeur qui lui aussi avait une voix assez légère. Enfin, c'est très intéressant de voir, d'écouter. Hein. Il y a des enregistrements de Reinaldo Hahn qui chante en s'accompagnant au piano. Et c'est très agréable de voir à quel point c'est juste dit de manière comme pratiquement de la chanson française, en fait. Et c'est ça qui fait son charme un peu début de siècle.
Est-ce que vous avez constaté une évolution de votre voix? Est-ce que votre voix évoluait dans quel sens?
Alors au début, j'étais très complexé de cette voix très aiguë et très légère. Ce qui fait qu'au bout de quelques années, j'ai voulu à tout prix chanter le plus grave possible. Hein, vous savez, pour essayer de travailler le sens opposé. Et là, je pense que j'arrive petit à petit à un équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, ma voix, je pense, a gagné dans le médium, en profondeur. Pas forcément énormément en puissance, mais en profondeur, en chaleur. Et curieusement, je ne trouve pas qu'elle ait tant perdu que ça d'aigu. Donc, j'ai un peu le syndrome... Je dis ça parce que c'est une chanteuse tchèque, mais j'ai un peu le syndrome Magdalena Kožená, c'est-à-dire que on est un petit peu entre deux voix, c'est-à-dire entre... je sais que Magdalena a beaucoup chanté des parties d'alto, qu'après elle chantait Cléopâtre dans Jules César, et qu'elle chante des choses très différentes, et que sans me comparer à elle, j'ai aussi le même problème, c'est-à-dire que, par exemple, le programme de Zelenka est un programme plutôt alto, mais que dans 2 ans, je vais chanter Nerone dans l'Incolazione di Poppea, et que j'ai d'autres engagements plus sopranisants, on va dire, et que c'est un réglage constant qui doit se faire, et que petit à petit, j'ai l'impression quand même que 2 parties de ma voix se raccordent. C'est-à-dire que ce qu'il faut idéalement, c'est que ça soit la même voix. Et donc, je crois qu'il y a une certaine sérénité qui s'installe dans mon travail technique, en tout cas.
C'était une rencontre avec le contre-ténor français Philippe Jaroussky. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Irena Viernochová, réalisation technique, et à Aleš Pezl, prise de son.